Nous sommes le 21 mai 2023 et nous en sommes à la cinquième journée intensive de l'année au Centre Zen de Montréal. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter le koan numéro 9 du recueil de la falaise bleue, le Hikigan Roku, les quatre portes de Joshu. Avant d'aborder le Coran, il est bon de savoir que les maîtres zen adoptaient parfois le nom de l'endroit où ils établissaient leur temple, leur monastère ou leur ermitage. Il pouvait s'agir d'une montagne, d'un village, d'une rivière même. Le maître Joshu avait adopté le nom du village de Joshu, qui était situé à proximité de son temple. L'histoire de Joshu est assez remarquable. Il est un des plus grands maîtres. Le maître Seppo, qui vécut quelques années après lui, l'appelait le vieux Bouddha. Et lorsqu'un jour on lui demanda de dire quelques mots à propos de Joshu, il s'inclina simplement. Monsieur Lo en parlait avec une affection réelle et le citait régulièrement dans ses teshus. Il était aussi le maître préféré de Keido Fukushima, qui enseigna Jeff Shore au temple de Tofukuji à Kyoto. Et l'on dit que les prêtres zen du Japon appellent encore aujourd'hui le maître Joshu « père » afin d'exprimer leur profond respect envers lui. Joshu a vécu de 778 à 897. Il étudia pendant plus de 40 ans auprès du maître Nansen, et le premier éveil de Joshu à l'âge de 19 ans est raconté dans le Koan 19 du Mumonkan. L'esprit ordinaire, c'est la voie. Après la mort de son maître, Joshu resta 3 ans au monastère pour prendre soin de la sépulture de Nansen. Il entreprit ensuite un pèlerinage et parcourut la Chine pendant plus de 20 ans afin de rencontrer d'autres maîtres spirituels et approfondir son propre éveil. On dit de lui qu'il aimait plus que tout errer dans les montagnes escarpées de la Chine. Et ce n'est qu'à l'âge de 80 ans qu'il consentit enfin à s'établir dans le monastère de Kuan Yin, près du village de Joshu. Il y enseigna pendant les 40 dernières années de sa vie et mourut à l'âge de 120 ans, sans laisser de successeur. Le Koan que nous étudions aujourd'hui fait le récit de la rencontre au monastère entre le maître Joshu et un visiteur. Le Koan se lit comme suit. Un visiteur demanda à Joshu, « Parlez-moi de Joshu. » Joshu répondit, « La porte de l'Est, la porte de l'Ouest, la porte du Sud, la porte du Nord. » Le village et le maître se nomment Joshu. Le visiteur demande à maître Joshu de lui parler de Joshu. Quelle est vraiment sa question? Veut-il simplement mieux connaître le village? Par exemple, combien de personnes y habitent? Ou quelles en sont les principales activités économiques? Ou est-ce autre chose? Le visiteur veut-il plutôt, sans le préciser, que Joshu lui parle de lui-même? Sa question reste ambiguë. Et maître Joshu lui répond, la porte de l'Est, la porte de l'Ouest, celle du Nord et celle du Sud. L'on peut imaginer que le village de Joshu était entouré d'un mur ou d'une palissade et que l'on pouvait y entrer et en sortir par 4 portes situées respectivement à l'Est, à l'Ouest, au Sud et au Nord. Le jour, ces portes étaient probablement ouvertes afin de permettre les allées et venues des commerçants, des voyageurs et aussi des paysans qui quittaient le village pour aller travailler aux champs. La nuit venue, on les fermait afin d'assurer la sécurité du village. Le visiteur veut qu'on lui parle de Joshua et le maître lui répond en lui parlant des portes du village. Que se passe-t-il entre maître Joshua et son visiteur? Il existe une autre version de ce Coran. Elle est légèrement différente. Elle se lit comme suit. Un visiteur demanda à Joshua, « Parlez-moi de Joshua. » Joshua répondit, « La porte de l'est, la porte de l'ouest, celle du sud et celle du nord. » Le visiteur poursuivit en disant, « Je ne parle pas de ce Joshua. » Joshua répondit, « De quel Joshua parlez-vous donc? » Lorsque le maître répond, « La porte de l'est, la porte de l'ouest, celle du sud et celle du nord. » De quel Joshua lui-même parle-t-il? Si l'on vous demande qui êtes-vous, qu'allez-vous répondre? Dans quelle direction allez-vous vous tourner pour vous trouver vous-même? Vous savez peut-être qu'au Japon, les moines zen sont appelés onsui, un mot qui signifie nuage et eau. Si comme moi vous aimez observer des nuages, vous savez bien qu'ils ne restent jamais immobiles et que leur forme change d'instant en instant. Il en va de même pour l'eau. Elle s'écoule sans cesse, en s'enroulant autour des pierres, en plongeant sous les troncs d'arbres, en s'appuyant parfois pesamment aux rives ou en rugissant dans les chutes. Elle s'adapte parfaitement aux obstacles sur son parcours. Les nuages et l'eau n'ont aucune autre identité que celle de l'impermanence. Si on cherche à les saisir, on rencontre toujours une porte ouverte. Impossible de jamais refermer cette porte. Chaque instant s'évanouit dès qu'il apparaît, et on ne peut le trouver nulle part. L'instant est là, et dès qu'on le cherche, il n'y est plus. Le Bouddha a bien vu que l'impermanence, ce n'est pas plus tard, demain, dans une semaine, un mois ou une année. C'est toujours maintenant. Mourir ne viendra pas plus tard. L'on meurt toujours maintenant. D'instant insaisissable, en instant insaisissable, on laisse aller la vie. Rien ne peut vraiment être saisi ou retenu. Et pourtant, la question demeure. Qui êtes-vous? Qui dites-vous que vous êtes? Vous savez peut-être que ce que l'on appelle une carte d'identité est apparu au XVIIIe siècle en Europe. Avant cela, l'identité sociale des individus était moins définie. Elle restait souvent imprécise, approximative. Il venait de tel ou tel village, avait tel ou tel âge, appartenait à telle ou telle famille. Leur identité civile officielle restait, pour ainsi dire, plus floue, indéfinie. Et c'est précisément dans le but de contrôler les allées et venues des populations et l'ensemble de leurs activités que les passeports, preuves de résidence et autres cartes d'identité furent créées et imposées dans les pays européens. Nous possédons tous et toutes de telles cartes aujourd'hui. Cartes d'assurance sociale, d'assurance maladie, permis de conduire, certificat de naissance et tant d'autres. Ces cartes contiennent des renseignements sur nous, des données comme on le dit maintenant. Et lorsque ces données sont subtilisées ou utilisées à notre insu, on parle même d'un vol d'identité. Est-ce là ce que nous sommes? depuis notre naissance. Toutes ces données nous ont peu à peu été attribuées. Nous avons tous et toutes hérité d'une identité sociale définie et contraignante. Nous avons appris et mémorisé tout cela. Cette identité que nous avons, pour ainsi dire, empruntée, ne nous appartient pas. Si l'on voit à travers toutes nos identités sociales, elles deviennent transparentes. Elles sont comme des portes ouvertes. On les utilise alors dans notre vie quotidienne sans jamais s'y identifier et elles ne nous causent aucun problème. Mais si on les fait nôtres, si on se les approprie, si on les croit réelles, elle nous enferme. Tout ce à quoi l'on s'identifie est une porte que l'on ferme sur soi-même. À partir du moment où on veut exister en tant que ceci ou cela, l'on se sépare des autres et du monde. C'est un sentiment que nous connaissons tous, n'est-ce pas? L'on se construit une sorte de petite forteresse personnelle et l'on en surveille étroitement toutes les portes, celles de l'est, de l'ouest, du sud et du nord, afin que nul n'y entre à notre insu. On protège l'illusion d'être quelque chose, une illusion dans laquelle, sans le vouloir et sans vraiment le voir, l'on s'est enfermé. Comme le dit la deuxième noble vérité, la cause de la souffrance, c'est le désir d'exister. C'est ce fou désir d'être quelque chose d'absolu et de permanent qui nous fait souffrir face à l'impermanence de tout ce qui est. Nous voulons que le temps s'arrête, qu'il se fige, qu'il nous épargne. Qu'il cesse de s'écouler comme le font sans cesse les rivières et les nuages. Et pour y arriver, nous nous accrochons désespérément à... Mais à quoi donc? Voici un texte du quatrième patriarche du Shan chinois, Maître Daoxin, qui vécut de 580 à 651. Il nous dit, et je cite, rien ne manque en vous, et vous n'êtes pas différent du Bouddha. Il n'y a pas d'autre manière de parvenir à l'état de Bouddha que de laisser à votre esprit la liberté d'être lui-même. Vous ne devriez contempler ni purifier votre esprit, ni laisser entrer ni désir obsédant, ni haine, et n'ayez ni crainte, ni anxiété. Soyez sans limite, et absolument libre de toutes les conditions. Ayez la liberté d'aller dans la direction qui vous plaît, quelle qu'elle soit. N'agissez ni dans le but de faire le bien, ni dans celui de poursuivre le mal. Que vous marchiez ou que vous restiez, que vous soyez assis ou couché, quoi qu'il vous arrive, il s'agit de la merveilleuse activité de votre vraie nature. Tout est joie, sérénité. C'est ce qu'on appelle Bouddha. Fin de citation. Le maître Matsu, qui fut le septième patriarche du Shan chinois, le disait en ces mots, et je cite, « La voie, c'est être naturel, marcher naturellement, s'asseoir naturellement, dormir naturellement, vivre naturellement. Telle est la voie. Laissez à l'esprit sa liberté. Ne faites intentionnellement ni le bien ni le mal. Il n'y a pas de loi à suivre, pas d'état de Bouddha à atteindre. Gardez un esprit libre et ne vous attachez à rien. C'est cela la voie. » Fin de citation. Ne vous attachez à rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous êtes en zazen, ne refusez rien de tout ce qui se manifeste en vous. Si vous le faites en essayant par exemple de repousser certains états d'esprit négatifs ou en tentant d'éviter certaines pensées que vous jugez impropres ou inappropriées, croyant faussement qu'elle vous éloigne d'une pratique authentique et correcte, alors vous fermez des portes en vous. Vous imposez à votre pratique de suivre une direction qui n'est pas celle de votre propre vie. Vous vous attachez à une idée de ce que doit être la pratique et vous tentez de vous y conformer. Ce type de pratique est voué à l'échec. Et ceux et celles qui vont dans cette direction risquent de perdre de vue leur propre cœur et de voir se tarir la soif sincère qui les a amenés vers le zen. Ne s'attacher à rien signifie aussi ne rien retenir, c'est-à-dire ne pas chercher à retrouver ou perpétuer aucun état d'esprit particulier. Croyant encore ici que la pratique du zen n'a de valeur que s'il en résulte, par exemple, des états de calme profond, sans aucune agitation, des états de bien-être détendu, sans aucune tension. Encore ici, l'on chérit une idée de ce que doit être la pratique du zen, et l'on ferme d'autres portes en soi-même, croyant se trouver on s'éloigne de soi-même. Voyez-vous que l'on cherche à se réaliser ou à se libérer, que l'on s'effraie à l'idée de ne pas y arriver ou de ne pas atteindre l'éveil, que l'on repousse ce qui nous trouble ou que l'on s'exalte devant des états d'esprit qui nous donnent de l'espoir, il s'agit toujours d'ambition spirituelle. Et ce n'est pas là la voie du zen. Un haïku du poète japonais Issa nous dit « Tant de vents ont traversé ma chambre d'été, mais ce n'est jamais assez. » Que voulez-vous de plus ? Nous disait Monsieur Lowe avec d'autres mots. « De quoi manquons-nous ?» nous dit Maître Aquin dans son chant du zazen. Les pensées qui alimentent notre avidité sont comme des feuilles mortes, flottant à la surface des eaux. Laissez-les simplement venir et aller. Comme le dit bellement Hubert Benoît dans son livre « La doctrine suprême », et je cite « La nature des choses est pour nous le meilleur, le plus affectueux et le plus humiliant des maîtres. Elle nous entoure de son aide vigilante. La seule tâche qui nous incombe est de comprendre la réalité et de nous laisser transformer par elle. » Fin de citation. La nature des choses, c'est tout ce qui apparaît en nous et autour de nous, d'instant en instant. Entrer en amitié avec tout ce qui est, c'est laisser la nature des choses nous transformer. Hubert Benoît continue en disant « Il n'y a aucune voie vers la délivrance. Il n'y a à aller nulle part. Il n'y a rien à faire. Ce qu'il y a à comprendre par un travail, c'est l'illusion décevante de toutes les voies que nous imaginons et que nous nous efforçons de suivre. Tout ce que nous entreprenons nous-mêmes pour nous libérer est vain. » Fin de citation. Le maître Su Yun était d'origine chinoise. Il est décédé en 1959, à un âge très avancé, Il était considéré comme l'un des plus grands maîtres du zen en Chine. Un jour, s'adressant à ses élèves qui allaient entreprendre une retraite intensive de 7 jours, il leur dit, et je cite, « Nous en sommes au premier mois de la nouvelle année et nous avons tous la chance de nous joindre à cette retraite de 6 jours. N'est-ce pas le meilleur endroit pour apprendre ce que signifie ne rien faire? Ne rien faire signifie qu'il n'y a absolument rien à faire ou à apprendre. Hélas, quoi que je dise au sujet de ce rien, je passerai à côté. Ô amis et disciples, si vous n'attachez pas votre esprit aux 10 000 choses, vous verrez que l'étincelle de vie émane de tout ce qui est. » Fin de citation. Un jour, un visiteur demanda à Joshu, « Parlez-moi de Joshu. » Maître Joshu répondit, « La porte de l'Est, la porte de l'Ouest, la porte du sud, la porte du nord. » Le visiteur poursuivit en disant, « Je ne parle pas de ce Joshu. » Joshu dit alors, « De quel Joshu voulez-vous donc parler? » Toutes les portes sont ouvertes. Où le visiteur pourra-t-il jamais trouver Maître Joshua?